Alors, vous allez avoir la chance d'entendre Bernard Manissel. Bernard Manissel est un chercheur renommé en immunologie en France et à l'étranger. Il travaille à Marseille, au Centre d'immunologie de Marseille-Lévis. Vous avez peut-être entendu parler pour une raison triste ces derniers jours, c'est qu'un de ses fondateurs vient de décéder, François Kourinski. On peut avoir une pensée pour lui, un grand monsieur. Et Bernard a été un des premiers à être présent dans cet institut, même s'il est encore relativement jeune. Et il y a fait depuis de nombreuses années des travaux majeurs dans le domaine de l'étude des processus par lesquels les lymphocytes T s'activent, mais aussi les lymphocytes se différencient, comment les antigènes, d'ailleurs il va en parler en partie ici, sont présentés par les cellules dendritiques. Donc c'est un grand contributeur à la recherche en immunologie fondamentale et je le remercie d'être avec nous cet après-midi.
Okay. Merci Alain, donc c'est vraiment un plaisir de faire un cours au Collège de France. Donc j'ai regardé le programme, j'ai vu que vous avez, Alain vous a donné une introduction assez substantielle, j'ai vu que vous aviez aussi un séminaire par Sébastien Migorena, donc je vais un petit peu me focaliser surtout sur la partie lymphocyte T. Et en fait ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que malgré toutes les connaissances que l'on a accumulées depuis près de 30 ans, 40 ans sur les lymphocytes T et B, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir si on veut être capable de les utiliser rationnellement et de comprendre comment ils fonctionnent. Et ce que je vais essayer de faire, donc c'est très très simple, c'est de vous montrer quelques approches qui prospectivement peuvent nous donner une idée de la complexité de ce puzzle donc, qui est utilisé par les lymphocytes T pour reconnaître les antigènes, donc pour être à la base de l'immunité adaptative. Donc c'est un travail qui a été fait par mon groupe de recherche, et essentiellement ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été fait par Romain, un travail qui a été fait par Marie. Et donc, en fait, la question qu'on s'est posée initialement, et vous allez voir pourquoi on en est arrivé à essayer de développer ou à appliquer de nouvelles approches à la question que l'on se posait, c'est un petit peu la même manière dont Alain vit quotidiennement au niveau de la clinique, sauf que nous, notre clinique, c'est une animalerie avec des souris, donc on est confronté par hasard à une mutation dans un gène donné qui va donner naissance à un syndrome, dans le cas présent, c'est un syndrome lymphoprolifératif, c'est-à-dire que des lymphocytes de la souris se mettent à proliférer de manière totalement inattendue, et ça nous questionne. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre les bases moléculaires d'une pathologie, tant chez l'homme que chez la souris, et de comprendre un petit peu la mécanistique qui va faire qu'il y a un gène qui est dérégulé, qu'il y a un produit qui est dérégulé, on arrive à avoir une anomalie assez importante du système immunitaire, ici en l'occurrence des lymphocytes T. Donc il y a malheureusement pas beaucoup d'approches. Il y a une approche donc, qui a été illustrée par Alain et par l'école auquel il appartient, qui est d'utiliser la génétique classique. C'est-à-dire lorsque vous êtes confronté à une pathologie du système immunitaire, c'est essayer de remonter à la cause génétique. Une fois qu'on est descendu au niveau du génome, qu'on a une idée du gène qui a été affecté, on essaye de remonter un petit peu vers la protéine, de voir pourquoi la protéine agit de manière anormale et rend compte de cette anomalie génétique. Donc ça a été une approche qui a été absolument fascinante et qui a été extraordinairement payante pour des maladies monogéniques. C'est un petit peu plus compliqué dans le cas de maladies polygéniques, dans la mesure où il y a souvent plusieurs gènes qui contribuent à donner naissance à une maladie. Et l'analyse est beaucoup plus compliquée. Donc, en fait, juste pour faire une récapitulation de ce que vous aviez entendu au cours des séminaires ou des cours précédents. Donc, par exemple, si vous prenez juste la peau, au niveau de la peau, donc on a tous, que ce soit la souris ou l'homme, on a tous des cellules dendritiques qui sont localisées par exemple au niveau de la peau, au niveau de toutes les portes d'entrée du corps humain ou de la souris. Et leur travail essentiellement, c'est d'essayer de palper un petit peu ce qui se passe, de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'environnement cutané. Elles sont capables de capturer des petits morceaux de cellules de la peau. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que ces paquets d'informations qu'elles ont collectées pour savoir s'il y a une infection ou pas d'infection, s'il y a une inflammation ou pas d'infection au niveau de votre peau, elles sont capables de le transporter par l'intermédiaire donc des vaisseaux lymphatiques au niveau des ganglions. Et donc au niveau des ganglions, comme vous le savez probablement, c'est là qu'elle rencontre les lymphocytes T, donc qui sont des cellules qui sont constamment mobiles, donc qui se promènent au niveau de notre corps et qui voyagent au niveau de la lymphe, au niveau des vaisseaux, et passent un certain temps de leur vie donc, au niveau des ganglions. Et c'est au niveau des ganglions que s'effectue donc, cette rencontre entre les lymphocytes T et les cellules dendritiques, et avec tous les outils moléculaires que possèdent les lymphocytes T à leur surface, ces lymphocytes T décodent un petit peu les paquets d'informations qui ont été amenés par les cellules dendritiques et vont en particulier se rendre compte s'il y a des antigènes étrangers, des antigènes viraux, des antigènes microbiens, d'une part, et également vont pouvoir décoder s'il y a des réactions inflammatoires qui se déroulent avec des molécules dont vous avez entendu parler, comme la molécule CD28. Donc la surface de lymphocyte T ou d'un lymphocyte B, c'est quelque chose de très très compliqué, dans la mesure où il y a plusieurs centaines de molécules différentes, chacune affectée à une fonction particulière. Et comme vous l'avez déjà entendu, donc, un petit peu ce qui domine la fonction des lymphocytes T, c'est une molécule qu'on appelle le récepteur pour l'antigène des lymphocytes T, ou le TCR, et sa fonction princeps, donc, c'est de reconnaître des complexes antigéniques, donc des sous forme de peptides qui vont dériver d'une bactérie ou qui vont dériver d'un virus. Et en fait, ces petits fragments de peptides d'origine virale ou bactérienne sont présentés à la surface des cellules présentatrices d'antigènes par l'intermédiaire de molécules qu'on appelle les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et en fait, le TCR serait totalement aveugle si ces peptides étaient présentés de manière non liée à ces molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et donc, le lymphocyte T, par l'intermédiaire de son récepteur pour l'antigène des lymphocytes T, scanne, cherche un petit peu ce qui se passe au niveau de ces gorges à peptides qui sont localisées au niveau des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité pour détecter, et vous avez une partie du cours précédent, j'ai vu le programme qui le contenait, si l'interaction de haute affinité qui se fait entre le récepteur T et ces molécules-là, il va y avoir un couple de protéines kinases qui vont être activées, qui s'appellent les protéines kinases LCK et ESAP, et qui vont induire l'activation des lymphocytes T. Mais ça, c'est juste un petit composant. Bon, c'est un composant central dans le cas des lymphocytes T, dans la mesure où c'est lui qui dicte la reconnaissance antigénique. Mais en fait, ce récepteur est assisté par exemple, ce qu'on appelle des molécules coréceptrices, ça peut être CD4 ou CD8, mais également par tout un panel de molécules que j'appelle des détecteurs de contexte, en fait, qui vont capturer au niveau de la surface des cellules dendritiques les informations qui vont dire, par exemple, qu'une cellule dendritique a été dans un contexte inflammatoire. Et ces molécules de co-stimulation, par l'intermédiaire d'une cascade de signalisation, vont envoyer des signaux vers le lymphocyte T. Et ce qui est extraordinairement complexe pour l'humain, c'est de comprendre un petit peu comment le lymphocyte T intègre l'ensemble de ces informations. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls, c'est probablement beaucoup plus compliqué que cela. Et à la fin, après avoir intégré ces informations, on va prendre une décision, souvent binaire, qui va être « il se divise ou il ne se divise pas ». Il va se mettre à sécréter des cytokines ou pas des cytokines, il va se mettre à tuer une cible tumorale ou il ne va pas se mettre à tuer une cible tumorale. Donc à l'heure actuelle, on est un petit peu confronté à essayer de comprendre ce puzzle de signalisation qui se passe à la surface du lymphocyte T et qui aboutit donc finalement à la mise en place des réponses immunitaires adaptatives, donc qui est à la base de notre capacité à nous défendre contre des virus, des bactéries, des parasites et probablement aussi dans certains cas des tumeurs. Donc depuis très très longtemps, quasiment depuis une trentaine d'années que ce récepteur T a été découvert et que ces autres molécules ont été découvertes, le jeu de plusieurs laboratoires et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et juste si de manière très très schématique, pour reprendre un petit peu ce qu'Alain avait dû vous dire, donc ce récepteur pour l'antigène, on va pas détailler sa mécanistique, comment il fonctionne. Donc juste sa capacité, c'est de reconnaître une molécule antigénique complexée à des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité et par des mécanismes qui restent controversés à l'heure actuelle, de délivrer une information vers le cytosol, vers le cytoplasme de la cellule T Et en particulier, ce qui va se passer, c'est au travers de deux protéines tyrosine kinase qui s'appellent LCK et ZAP70, de déclencher l'activation, donc ce que j'appelle le module de reconnaissance et d'activation. Et en particulier, cette kinase ZAP70, qui était relativement peu active quand le lymphocyte T est quiescent, reçoit, quand le récepteur T se trouve engagé à un antigène, reçoit des informations qui vont faire qu'elle va devenir très active. Et de facto, puisque c'est une protéine tyrosine kinase, dès qu'elle va trouver un résidu tyrosine dans son environnement proche, elle va se mettre à le phosphoryler. Donc, on reparlera un tout petit peu tout à l'heure de la molécule LAT, qui est une molécule, un adaptateur, qui est une molécule un peu bête, dans la mesure où c'est en gros un genre d'extension cytosolique ancrée à la membrane par un petit fragment transmembranaire et qui comporte de très nombreux résidus tyrosine. Et en fait, la première perception par un lymphocyte T du fait que le récepteur T a été activé va être la phosphorylation de ces résidus tyrosine, et vous allez voir le rôle que ces résidus tyrosine ont. Et juste pour pas oublier, donc notre lymphocyte T doit à la fois intégrer ces signaux qui proviennent du fait qu'il a reconnu un antigène, plus de ce module de co-stimulation, donc qui par l'intermédiaire de la molécule CD28 va essayer de décrypter si, par exemple, il y a eu, comme je vous le disais, une inflammation au niveau de la peau, et ça va se traduire par le fait que la cellule dendritique va, par exemple, exprimer des hauts niveaux de molécules CD80 et CD86, qui sont des ligands de la molécule CD28. CD28 va se trouver à ce moment-là amené en contiguïté de nouveau avec ces kinases telles que LCK et ZAP70. Vous avez des résidus tyrosine au niveau de l'extension cytosolique de la molécule CD28 qui vont se trouver phosphorylés, qui vont se trouver recrutés des molécules au niveau du cytosol et qui vont donc contribuer à ces opérations de signalisation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, pendant pas mal de temps, mis à part pour quelques laboratoires au niveau mondial, les problèmes de comprendre comment un lymphocyte T était activé avaient perdu un petit peu de leur intérêt, donc n'est plus très à la mode. Et en fait, ce qui s'est passé très très récemment, il y a eu de très très nombreux succès qui ont été, il y a eu quelques succès importants qui ont été observés dans le champ du traitement des tumeurs par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les immunothérapies. En fait, ces traitements donc, ils fonctionnent relativement de manière impressionnante dans le cas de mélanome. Des patients qui seraient morts en quelques semaines, voire quelques mois, ont réussi à vivre des années lorsqu'ils avaient été traités, à l'aide en fait, d'anticorps monoclonaux qui étaient dirigés contre certaines de ces molécules présentes à la surface des lymphocytes T. Et de la même manière que donc on vous a indiqué qu'il y a des molécules qui sont co-stimulatrices, donc qui vont aider le récepteur des lymphocytes T à délivrer des signaux positifs vers l'intérieur du lymphocyte T, il se trouve qu'à la surface des lymphocytes T, il y a également ce qu'on appelle des molécules co-inhibitrices qui vont, en fait, lorsqu'elles vont reconnaître un de leurs ligands à la surface d'une cellule présentatrice d'antigènes, vont se trouver envoyer des signaux négatifs vers le lymphocyte T et vont en fait diminuer la capacité fonctionnelle du récepteur des lymphocytes T. Et en fait, de manière extraordinairement simpliste, les cliniciens donc, et les gens qui font de la pharmacologie ou qui dérivent des anticorps monoclonaux ont dit, mais ce qui va être amusant, c'est lorsque par exemple vous avez un lymphocyte T qui va infiltrer une tumeur, s'il se trouve que cette tumeur exprime les ligands de ces molécules co-inhibitrices, la tumeur va en fait lutter contre l'action des lymphocytes T qui a pour but de les tuer en induisant des signaux à travers ces molécules co-inhibitrices et donc va en fait freiner l'action du lymphocyte T. Et donc l'astuce, qui n'est pas particulièrement une astuce intellectuelle très, 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 très grandiose, ça a été de se dire si on peut construire des anticorps monoclonaux qui vont venir reconnaître en fait ces frais moléculaires, donc les neutraliser, eh bien en fait on devrait pouvoir ainsi reconstituer, réinitier les capacités de destruction des lymphocytes T vis-à-vis des tumeurs. Et en fait, un certain nombre d'anticorps dirigés contre la molécule CTLA4, donc qui avait été découvert il y a très très longtemps par Pierre Goldstein à Marseille, et à l'époque on avait complètement manqué sa fonction, ce qui est bien dommage, également contre une molécule telle que PD-1, donc si vous faites des anticorps monoclonaux, que vous les injectez à des patients qui sont malheureusement souffrent de mélanome métastatique, dans un certain nombre de cas, en fait, le fait que vous avez neutralisé la molécule CTLA4 ou la molécule PD-1 vont faire que le patient, grâce à ses propres lymphocytes T antitumoraux, va se débarrasser des mélanomes et va pouvoir survivre, c'est ça qui est très impressionnant, pendant de nombreuses années sans récurrence de la maladie. Donc ce côté un petit peu appliqué a réactivé l'intérêt de la communauté immunologique et des grands groupes pharmaceutiques que vous voyez ici, qui sont tous dans ce jeu-là, pour un petit peu comprendre comment fonctionnent ces molécules. Donc, je suis désolé pour les diapositives qui sont en anglais. Donc, en gros, le point, c'est le fait que les anticorps thérapeutiques fonctionnent et que les anticorps thérapeutiques qui fonctionnent, en fait, sont dirigés contre ces molécules co-inhibitrices et aussi contre des molécules co-stimulatrices quand on veut faire l'inverse, donc quand on veut combattre par exemple des maladies inflammatoires ou des maladies auto-immunes, a amené à se réintéresser à comment ces co-inhibiteurs et ces co-stimulateurs fonctionnaient. Et ce qui est intéressant, si on fait juste un état des lieux, malgré le fait que vous allez avoir des milliers de publications par exemple autour de la molécule CD28, il était toujours très difficile de comprendre comment cette molécule fonctionne. Et je voudrais juste illustrer comment on peut utiliser l'outil génétique pour essayer de comprendre comment un pathway de signalisation, donc comment une molécule telle que CD28 est capable de délivrer des signaux vers l'intérieur du lymphocyte T. Et ce que je vais prendre l'exemple d'une pathologie qu'on a caractérisée au laboratoire il y a une quinzaine d'années et qu'on est toujours en train d'essayer de comprendre à la mesure où elle est assez fascinante, qui est une pathologie très surprenante. Si on reprend de manière ultra simplifiée ce qui se passe lorsqu'un lymphocyte T reconnaît donc un antigène, comme je vous l'ai dit, l'antigène combiné aux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité est reconnu par le récepteur de lymphocyte T. Vous activez les kinases LCK et ZAP70. ZAP70 phosphoryle les résidus tyrosine présents au niveau de la queue intracytoplasmique de la molécule LAT, qui en gros peut être considéré juste comme un genre de fil de pêche avec des hameçons qui seraient les résidus phosphorylés et tyrosine phosphorylée. Et en fait, ces résidus, lorsqu'ils sont phosphorylés, ont la capacité d'être reconnus par des molécules localisées au niveau du cytosol des lymphocytes B. Donc vous avez une agrégation autour de cette molécule LAT qui a été phosphorylée d'un grand nombre de protéines cytosoliques qui sont des protéines qui sont intimement associé à la capacité de délivrer des signaux. Par exemple, Alain vous en a parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, vous avez cette molécule SOS qui va permettre d'activer une protéine qui s'appelle RAS. Vous avez la phospholipase gamma 1 qui va faire que vous allez fabriquer du calcium. Vous avez SLIP-116 qui, avec une molécule qui s'appelle ADAP, va faire que les intégrines vont venir fonctionner de meilleure manière et vont renforcer l'adhésion du lymphocyte T pour sa cible ou pour la cellule présentatrice d'antigène. Donc vous allez avoir un buisson, donc un arbre d'informations qui vont être délivrées simplement par le fait que LAT s'est retrouvé phosphorylé. Et de manière très très naïve, comme ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, on s'est dit il y a une dizaine d'années, on va essayer de construire des souris qui vont présenter une mutation, par exemple, de cette tyrosine qu'on appelle la tyrosine numéro 6. Donc on l'a remplacée par une phénylalanine, donc ça fait Y, elle s'appelait Y136F. Et donc l'idée était ultra simpliste à l'époque. On pensait qu'en faisant, en mutant cette tyrosine, on allait garder l'ensemble des autres molécules associées à la molécule LAT phosphorylée et on allait perdre la connexion du TCR, par exemple, à la voie calcique. En fait, on n'a pas du tout obtenu ces mêmes résultats, dans la mesure où, quand on faisait ces opérations, on imaginait que les lymphocytes allaient bien moins fonctionner que les lymphocytes mutants allaient fonctionner de moins bonne manière que les lymphocytes sauvages, tout simplement parce qu'on leur avait enlevé une partie de leur capacité à délivrer des signaux. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, dans la mesure où cette souris, la souris LAD136, lorsque cette mutation est présente à l'état homozygote, donc si on s'amuse à regarder, par exemple, au niveau de la rate de cette souris, donc vous avez des lymphocytes CD4, dans une souris normale, si vous regardez au début de la vie d'une souris, il y a des lymphocytes T qui sortent du thymus, ils commencent à arriver dans la rate, ils vont se développer, s'expandre, ensuite vous atteignez un plateau pour quasiment toute la vie de la souris. S'il n'y a aucune infection qui se déroule, vous avez en gros 10 millions de lymphocytes CD4 au niveau de la rate. Ce qui est très amusant dans ces souris, avec cette mutation que l'on avait construite dans la molécule LAT, c'est qu'à 3 semaines, vous voyez, il y a très très peu de cellules, donc la mutation qu'on a fait quand même impacte sur le développement de ces lymphocytes T dans le thymus. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'entre 3 et 6 semaines, donc qu'est-ce qui se passe ? Ce peu de lymphocytes T qui sont en périphérie s'embarquent dans un syndrome lymphoprolifératif, donc prolifèrent de manière énorme. Et en fait, vous retrouvez dans une rate de ces souris avec 100 millions de lymphocytes CD4, donc 10 fois plus que la normale. Et en plus, ce qui est très amusant, c'est que ces lymphocytes T spontanément se mettent à produire ce que font d'habitude des lymphocytes T effecteurs, donc ils produisent des cytokines en énorme quantité. En fait, ce sont des cytokines qu'on appelle des cytokines qui appartiennent à la classe Th2, on produit des en quantité d'IL4, IL5, IL10, etc., etc. Et ça se traduit par quelque chose d'assez catastrophique au niveau de cette souris. Cette souris non seulement présente de grands nombres de lymphocytes T, mais avait développé une pathologie B énorme, dans la mesure où ces lymphocytes T sont capables d'aider les lymphocytes B à devenir des plasma cells qui produisent des IgE et des IgE1 en très grande quantité. Et par exemple, comme chez l'homme, il est d'habitude très difficile dans une situation normale de détecter les IgE. Vous savez, les IgE sont les immunoglobulines qui sont responsables pour l'allergie vis-à-vis de pollen ou vis-à-vis de venin. Et normalement, dans une souris normale, il est très très difficile de mesurer ces IgE au niveau du sérum. Et dans cette souris, on se rend compte que très rapidement après la naissance et de manière corrélée avec la présence de ces cellules qui se développent, vous avez les lymphocytes B qui deviennent totalement fous et se mettent à sécréter des quantités absolument faramineuses d'IgE au niveau du sérum. Donc vous avez plusieurs milligrammes par ml d'IgE, donc un facteur de quasiment 1 million d'amplification, et la manière pour les IgE. Donc ces cellules, non seulement rendent les lymphocytes B totalement fous, mais également agissent au niveau des éosinophiles. Donc vous avez une éosinophilie qui se développe. Les poumons de ces souris sont absolument misérables, dans la mesure où vous avez des centres germinatifs qui se mettent en place. En fait, les souris meurent aux environs de 4 à 6 mois, dans la mesure où parmi ces anticorps qui se développent, vous avez des anticorps qui sont dirigés, des auto-anticorps qui sont dirigés contre les cellules du rein, et elles ont des problèmes rénaux, elles souffrent de protéinurie, elles meurent probablement de protéinurie. Donc c'était assez fascinant dans la mesure où on avait un résultat qui était l'inverse de ce qu'on attendait. On espérait, en faisant ça, avoir des lymphocytes T qui étaient inertes et qui n'étaient pas capables d'être activés. En fait, on se rend compte qu'on a des lymphocytes T qui marchent beaucoup plus que ce que l'on attendait. Donc, c'est exactement ce que vous cherchez dans une carrière scientifique. C'est pas d'essayer de trouver ce que vous avez pensé, parce que souvent, c'est pas très intelligent, mais d'essayer de trouver des choses qui vont à l'encontre de ce que vous avez pensé, dans la mesure où c'est finalement la seule chose intéressante, parce que ça vous amène dans des voies totalement différentes des choses conventionnelles. Donc on a passé 10 ans à essayer on n'a toujours pas compris d'essayer de ce qui se passe dans cette brave souris. Donc ce qu'on s'est rendu compte, alors ce qui est un petit peu un paradoxe pour quelqu'un comme moi qui a travaillé pendant près de 30 ans sur le récepteur des lymphocytes T, on se rend compte que cette pathologie, elle a besoin du récepteur T, des signaux venant du récepteur T pour se mettre en place, mais très rapidement, ces cellules pathogéniques sont totalement, c'est un de mes post-docs qui avait trouvé le terme, elles deviennent autistiques, donc aux signaux du TCR. Donc en fait, elles ne se préoccupent plus du TCR. Et en fait, cette pathologie est totalement contrôlée par des signaux qui proviennent de cette molécule co-stimulatrice CD28. Et en fait, c'est Pourquoi on sait ça? Tout simplement, si vous débrouillez par un truc génétique à faire sauter la molécule CD28 dans ces cellules pathogéniques, vous arrêtez immédiatement la pathologie, ou vice-versa, si vous débrouillez pour que les ligands de ces molécules qui sont CD80, CD86, sont absents à un moment donné de la souris qui est en train de souffrir de cette pathologie, la pathologie s'arrête immédiatement. Donc on se trouvait dans une situation où c'est lymphocyte T qui déclenchait cette pathologie absolument impressionnante, était totalement, comment on dit, addicted en français, comment on dit ça, à une drogue au nez. Accro, voilà, accro. Elles étaient accro à la molécule CD28. Donc, vous empêchiez la molécule CD28 de fonctionner, vous préveniez la pathologie. Et donc, on s'est dit, on rêvait toujours de... C'est Marie et moi-même, on rêvait toujours de pouvoir un jour faire de la vraie génétique chez la souris. C'est-à-dire d'utiliser un outil qui serait basé sur la capacité d'induire au hasard des mutations dans le génome de la souris par un mutagène tel que l'ENU, et donc d'essayer en faisant une mutagénèse par exemple de ces cellules de la souris présentant cette pathologie, d'essayer de trouver des mutations qui par exemple préviendraient la pathologie. Et l'idée était vraiment simple, de nouveau c'est extraordinairement simpliste, si ces cellules sont accro aux signaux qui viennent de la molécule CD28, si vous avez construit par hasard en mutagénisant le génome de ces souris avec ce mutagène et en rendant ces mutations homozygotes, si vous avez par exemple, par chance, heureusement on n'a pas eu ça, trouvé une mutation dans CD28, vous préviendrez la pathologie. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qu'on espérait, c'est pouvoir trouver de nouvelles molécules qui n'avaient jamais été recensées dans cette voie de signalisation et qui nous permettraient d'empêcher la pathologie. Alors, ça, c'est simple. Ça prend juste 5 ans pour réaliser le travail. Et le problème, c'est que vous ne savez jamais ce que vous avez au bout. Donc, par exemple, on aurait pu très bien avoir des mutations d'un CD28, ce qui aurait été une superbe affaire dans la mesure où il y a déjà 15 souris qui ont été mutées pour CD28. Donc, on a eu... Bon, finalement, sinon je ne vous présenterai pas ça. On a réussi à trouver une molécule qui est... Et c'était toute l'idée du point. Donc, voilà, c'est vraiment très, très simple. Donc, ce qu'on faisait, on a maintenu 400 cages de souris pendant 5 ans. Et chaque semaine, on allait prendre un tout petit peu de sang à l'œil de ces souris qui avaient été mutagénisées, et on comptait tout bêtement le nombre de lymphocytes CD4 qui étaient présents dans le sang de ces souris-là. Juste comme contrôle, ça c'est une souris sauvage, donc elle a un petit nombre de lymphocytes CD4. Ça c'est une de nos souris qui souffre justement de cette pathologie. Vous voyez, un énorme nombre de lymphocytes CD4. Et là, c'est des souris qu'on a identifiées. Donc, pour une mutation dans un gène que Marie avait appelé basilique. Donc, et en fait, vous voyez, cette souris, on était sûr qu'on avait une mutation, on l'avait fixée. Donc, on voyait que cette mutation, dans le contexte qu'on avait introduit dans le contexte de ce fonds génétique mutant, prévenait complètement le développement du syndrome lymphoprolifératif. Donc en fait, ensuite, vous appliquez de la génétique très classique, vous essayez de mapper par des approches ultra classiques la position du gène muté, la manière que Calin le fait chez l'homme, et d'autre part, de manière, par chance également, au moment où on était en train de faire ce travail-là, comme vous avez entendu parler à toute technique de séquençage massif du génome qui avait été développé. Et en fait, Forrest, mon étudiant chinois qui travaillait sur ça, qui est un petit génie de la génétique de la souris, avait réussi à localiser la mutation sur un bras d'un chromosome donné. Et en fait, on a fait fabriquer une série d'oligonucléotides qui couvraient l'ensemble du bras de ce chromosome. On a piégé l'ADN correspondant à ce chromosome d'une souris sauvage ou d'une souris mutante, et on a pu séquencer avec une répétition de 60 fois donc le bras du chromosome sauvage et le bras du chromosome mutant, et en fait on est tombé sur, c'était superbe, une seule mutation qui concernait une molécule qui était totalement, il n'y avait aucun papier sur cette molécule, qui est une molécule qui s'appelle la molécule RLTPR, qui est une molécule qui contient une série de répétitions leucines riches à ce niveau-là. Donc, elle ne nous disait pas grand-chose. C'est une grosse molécule, donc 1397 aminoacides. Il y avait des résidus prolines à ce niveau-là. La seule chose qui était intéressante, c'est qu'il y avait un motif très, très précis qui nous disait que cette protéine a probablement quelque chose à faire avec le cytosquelette et l'actine. Donc, ce motif interagit avec des protéines, ça s'appelle les capping protéines, qui interagissent avec les filaments d'actine et qui les protègent. Et ce qui est très intéressant, la mutation donc, que l'on avait trouvée, c'est une mutation dans un séquences répétées, le signe riche, et en fait c'est une mutation absolument drastique qui détruit complètement une de ces répétitions, dans la mesure où vous avez une leucine qui est remplacée par une proline, ce qui est d'habitude pas très bon sur le plan structural. Donc, alors ça je ne vous dirai pas beaucoup sur comment elle fonctionne, parce que je vous montrerai où c'est qu'elle est positionnée dans un lymphocyte T. Donc pour le moment, c'est une molécule qui a la capacité, donc RLTPR, a la capacité de décaper les fragments d'actine. Donc normalement, avant pour pouvoir se polymériser, vous avez besoin d'enlever une série de protéines qui s'appellent les capping protéines. Et en fait, RLTPR appartient à une famille dont sa capacité est d'enlever ces capping protéines et d'exposer l'extrémité des filaments d'actine pour leur permettre de se polymériser. Donc c'est une très très jolie molécule en fait, parce qu'il y a une partie qui a été cristallisée, et en fait ça a vraiment confirmé que la mutation que par hasard on avait introduite est à la base d'un de ces répétitions et le détruit de manière complète. Donc une fois qu'on avait obtenu cette mutation, donc bien entendu on tombe sur une molécule totalement inconnue. Le problème, la question, c'est d'essayer pourquoi cette mutation dans cette molécule-là prévient la pathologie de ces souris-là. Donc ça a commencé à devenir assez intéressant dans la mesure où on a sorti cette mutation, dans la mesure où on l'avait identifiée, on l'a sorti du fond LAT136 et on l'a amené dans un fond sauvage. Et ce qui a été très intéressant, c'est de voir que lorsque vous dissociez cette mutation donc du fond génétique qui nous avait permis de l'identifier, en fait, les souris qui sont homozygotes pour cette mutation-là, elles ressemblent de manière extraordinaire à des souris qui sont dépourvues de molécules CD28. Je vais passer sur les détails. En fait, la molécule CD28, elle est assez fascinante dans la mesure où lorsque vous stimulez le récepteur T en présence d'anticorps anti-CD28, vous avez une énorme synergie qui se fait lorsque CD28 est présent. Lorsque CD28 est absent, vous perdez cette synergie. Et en fait, notre souris RLTPR basilique se comporte exactement comme si CD28 ne fonctionnait pas. Alors, ce qu'on a vérifié immédiatement, par chance, c'est que, bien entendu, cette mutation n'affectait pas le niveau d'expression de la molécule CD28. Donc, ça nous amenait à subodorer que probablement, cette molécule, elle devait travailler dans le pathway de signalisation de la molécule CD28. Et ce qui a été très rassurant, ce que les gens se sont rendus compte relativement récemment, c'est comme vous le savez, il y a des cellules très très importantes au niveau de notre système immunitaire, des lymphocytes T, qui s'appellent les lymphocytes T régulateurs FOXP3 positifs, donc qui maintiennent à bas bruit les fonctions du système immunitaire. Lorsque vous perdez ces lymphocytes T, vous avez des pathologies auto-immunes fulminantes qui se développent. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le développement de ces lymphocytes T régulateurs est très très dépendant de la présence de signaux provenant des molécules CD28. Donc si vous avez une souris qui est CD28 négative, vous n'avez quasiment pas, vous avez très peu de cellules régulatrices dans le thymus et en périphérie. Et ce qui est très intéressant, de nouveau, qui nous amenait à penser que CD28 et RLTPR avaient quelque chose à faire, la souris RLTPR mutante avait également très très peu de ça. Bon, mais ça c'était juste des arguments qui convergeaient vers le fait que cette molécule inattendue est d'une part essentielle pour stimuler vis-à-vis de CD28 et capitale pour le développement des lymphocytes régulateurs, mais ça ne disait pas exactement comment elle fonctionnait. Donc en fait, on a établi une collaboration avec un groupe qui est un groupe absolument superbe, hein, dans le terme, qui sont capables d'imager par des techniques de microscopie ce qui se passe à l'intérieur des lymphocytes T, avec le groupe de Takashi Saito. Et en fait, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est est-ce que cette molécule que l'on avait identifiée comme jouant un rôle important dans la cascade d'activation CD28, d'essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Donc Alain vous a tout à l'heure un tout petit peu parlé de ce pathway CD28, donc cette cascade d'activation CD28 qui permet au lymphocyte T de produire plus d'interleukine 2 ou de proliférer de manière plus importante. Donc ce qu'on savait, je vais passer sur le détail, c'est que il y a une protéine kinase qui est importante, il y a un complexe qui est important ici, et toute l'idée qui était, c'était que en fait, CD28 permettait de booster l'activation d'une voie de signalisation importante qui s'appelle la voie NF-kappa-B. Donc en fait, ce qu'on essayait de faire, dans la mesure où on pensait que notre molécule RLTPR avait quelque chose à faire dans la voie CD28, ça a été d'essayer de le localiser. Alors, ce que l'on a fait pour ça, on a utilisé des cellules qui expriment chacune de ces molécules-là, mais en fait, chacune de ces petites molécules-là a un petit drapeau fluorescent, une protéine fluorescente, donc qui est collée de manière covalente à cette molécule, ou à cette molécule, ou à cette molécule, ou à cette molécule-là, ce qui nous permet de suivre ce qui se passe au niveau des lymphocytes T. Par exemple, en fait, lorsqu'un lymphocyte T reconnaît sa cible cellule dendritique, vous avez le récepteur T qui va se regrouper au niveau en des zones très particulières. Vous avez la molécule, cette kinase PKC-θ qui aussi va venir se mettre autour de ce noyau de TCR. De la manière pour la molécule karma, si vous l'étiquetez avec une protéine fluorescente, vous voyez qu'elle suit exactement le même processus de réorganisation. Et en fait, ce qui est très intéressant, je vous passe tous les détails et tous les échecs que l'on a vus. Là, c'est le résultat final. En fait, notre souris qui a cette mutation dans la molécule RLTPR, en fait, vous voyez qu'elle est capable de regrouper le TCR au bon endroit de la cellule, mais elle est totalement incapable de recruter ces molécules PKC, θ et karma. Donc, en fait, ce que l'on pense, c'est que cette molécule, cette toute nouvelle molécule, permet de lier la molécule CD28 à la tête de cette voie de signalisation. Lorsqu'elle n'est pas présente, vous ne pouvez pas recruter cet ensemble de molécules effectrices et en fait, vous prévenez l'activation lymphocytaire médiée par la voie CD28. Et en fait, tout devient cohérent dans la mesure où ce qu'on avait montré, c'est que ces cellules, dans les cellules CD4 des souris de la 136 sont totalement accro à la molécule CD28. Et en fait, en introduisant une mutation qui casse cet effecteur-là, vous prévenez l'activation de la voie CD28 et par la même occasion, vous prévenez le développement du syndrome lymphoprolifératif. Donc tout ça pour nous amener à on va passer à la seconde partie de mon exposé, au fait que c'est assez déprimant dans la mesure où CD28, c'est une molécule qui a été découverte il y a près de 20 ans. Il y a des centaines, voire des milliers de publications. On avait l'impression qu'on connaissait l'ensemble de la voie de signalisation. Et en fait, juste au début de la voie de signalisation, il y a une molécule qu'on avait complètement ratée. Donc, ce qui veut dire que probablement, il nous manque beaucoup des éléments du puzzle. Donc, je pense que c'est une halitote de dire il y a énormément de pièces qui nous manquent. Et ça, c'était le premier point. Et l'autre point, c'est qu'il y a tellement de pièces qui interagissent, et Alain vous a parlé de boucles de régulation négative, de boucles d'amplification. Ça devient tellement complexe que malheureusement, notre intuition, je pense, est relativement limitée quand on essaye de comprendre des choses comme ça. Donc, on s'est proposé un petit peu, pas de repartir à zéro, dans la mesure où il faut toujours utiliser les acquis et être très pragmatique de ce qui avait été fait dans le passé, mais d'essayer de reprendre un petit peu, par une autre approche, la complexité du puzzle présent au niveau des lymphocytes T, mais ça s'applique également aux lymphocytes B, aux macrophages, aux cellules dendritiques, aux cellules mastocytaires. Donc en fait, qu'est-ce que l'on aimerait savoir ? Qu'est-ce que ça veut dire de comprendre vraiment comment fonctionne une voie de signalisation dans un premier temps, et ensuite comment ces voies de signalisation, lorsqu'on les regroupe, ce qui est capable de faire le lymphocyte T, comment elles s'intègrent les unes avec les autres. Donc c'est vrai que c'est quand même important de connaître l'ensemble des composants qui sont impliqués dans une voie de signalisation. Et juste l'exemple que je vous ai montré autour de la molécule RLTPR et de la voie de signalisation CD28 vous montre qu'on est vraiment loin du compte. Donc une fois qu'on aurait pu identifier l'ensemble de ces composants, un petit peu le rêve, c'est d'essayer de dire ben, on a le composant A, B, C, D, E, F, G, que F interagit avec A, que G interagit avec H, d'essayer de comprendre les relations de proximité, les interactions physiques qui peuvent exister entre ces différents composants. Une fois que vous êtes capable de dire ben, A, il travaille avec B, mais pas avec C, d'essayer de comprendre dans le temps, lorsqu'un lymphocyte T a été activé, à quel moment A va rencontrer B et pouvoir réaliser une action. Donc, ce serait de pouvoir les placer sur une carte dynamique pour essayer de construire un genre de modèle plus ou moins... un modèle, comme je dis toujours, un modèle, c'est juste quelque chose qui est là pour être détruit. Donc, c'est pas quelque chose de définitif, donc de construire un modèle, sachant que le modèle sera définitivement détruit plus tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez pu identifier tous les composants, établir les relations de proximité ou les relations fonctionnelles qui existent entre elles, ce que vous voulez, c'est vérifier que le modèle n'est pas totalement aberrant. Et donc, une des manières en biologie, comme vous le savez, de pouvoir vérifier un modèle, c'est de pouvoir muter certains des composants du modèle pour voir si vous imaginez que A va être capable de donner naissance à un produit intermédiaire E, si vous enlevez A et que vous avez toujours E qui est fabriqué, il y a un problème dans le modèle. Donc c'est un petit peu... De nouveau, c'est les approches extraordinairement bêtes, la génétique. Je prends toujours l'exemple, j'essaie de le redire, mais je le dis, c'est comme moi, je ne sais pas comment fonctionne un moteur de voiture. La seule manière, si vous essayez de savoir s'il y a des pièces qui sont importantes, vous en enlevez une. Si votre voiture n'avance pas, c'est probablement qu'elle était importante. Il y a des trucs qui sont, par moment, des trucs qu'il faut faire attention. Vous pouvez enlever la roue de secours, ça va rouler pendant très très longtemps. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que cette pièce était importante. Donc c'est un petit peu... Mais la génétique, c'est aussi simple. J'espère que tu adhères avec moi. C'est d'une puissance absolue. Et c'est très simple. Et bon, des fois, les interprétations sont compliquées, mais au moins, c'est assez minimaliste. Vous enlevez quelque chose et vous regardez est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, en gros, vous avez vu, maintenant, on va passer à une autre approche qui est de combiner la génétique avec la spectrométrie de masse. Donc, en fait, le rêve que l'on avait il y a 5 ans, à travers un certain nombre de consortiums européens, à la mesure où vraiment c'est impossible de s'attaquer à des problèmes aussi compliqués si vous êtes tout seul, c'était de dire, on a beaucoup travaillé pour se simplifier la vie chez la souris et chez l'homme sur des lymphocytes T transformés. Donc en gros, vous avez quelqu'un qui développe une tumeur lymphocytaire T ou lymphocytaire B, vous essayez de l'établir en culture, et par exemple, il y avait une lignée chez l'homme qui s'appelait la lignée Djurkat, qui était une lignée de lymphocytes T qui a été utilisée pendant 20-30 ans pour essayer de comprendre comment le récepteur T fonctionne. Alors, c'est très utile parce que c'est une lignée, vous pouvez la faire pousser en culture, vous pouvez en obtenir des kilos, vous pouvez la modifier, vous pouvez la muter, vous pouvez la lyser, vous pouvez faire de la biochimie. Le gros problème, c'est que souvent, c'est capital à la mesure où ça a permis de mettre les premiers éléments de la carte de l'activation des lymphocytes T en place. Heureusement qu'il y a eu, c'est sûr, je ne veux pas critiquer cette approche a été capitale. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, ces lymphocytes T transformés, ce n'est pas par hasard qu'ils poussent en culture, donc ils sont transformés, c'est qu'ils ont beaucoup de voies de signalisation qui sont mutées. Et parfois, ces mutations impactent également sur l'opération des voies qui nous intéressent, comme le récepteur des lymphocytes T ou les CD28. Donc, un petit peu, le rêve, c'était de pouvoir étudier ce réseau de signalisation opéré par le récepteur des lymphocytes T et la molécule CD28 dans des vrais lymphocytes, donc des lymphocytes qui sortent d'une souris, qui n'ont pas été manipulés en culture, et d'aller extraire des informations immédiatement à partir de ces cellules primaires. Donc là, on a utilisé un autre outil génétique qui s'appelle les souris knockout, knock-in, où ce qu'on est capable de faire, donc de nouveau, c'est simple entre guillemets, malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Donc entre le moment où vous avez conçu que vous voulez aller modifier le génome d'une souris et le moment où vous avez la souris mutée, ça prend entre 12 et 16 mois. Mais on peut y arriver maintenant sans problème et ça va être encore plus facile depuis quelques mois. Donc l'idée, c'était de se dire, on va essayer de... Il y a un certain nombre de protéines qui ont été identifiées dans le passé comme étant très importantes pour l'activation des lymphocytes T. On va essayer d'aller modifier le génome de la souris qui code pour ces protéines en collant à ces protéines ce qu'on appelle un drapeau. Tout à l'heure, je dis qu'on pouvait coller un drapeau qui était une protéine fluorescente, mais là, on va leur coller une séquence protéique qui va permettre, vous allez voir comment, de réaliser des approches de spectrométrie de masse très sensibles. Et donc, en fait, on a construit une série de souris. Et on a établi une collaboration avec un groupe absolument extraordinaire qui travaille à l'ETH à Zurich, dans le groupe de Rudia Bersold, pour pouvoir faire de la protéomique de ces souris. Et rappelez-vous, donc, on en a parlé, une vue très simplifiée du TCR. Le TCR reconnaît les antigènes, active une kinase telle que ZAP70. La kinase ZAP70 phosphorie le LAT. LAT recrute plein d'effecteurs et déclenche l'activation des lymphocytes T. En fait, pour bien faire un genre de preuve de concept que notre idée était réalisable, on s'est focalisé, donc on a construit une souris à laquelle on avait été ajouter une petite étiquette qui nous permettait de faire de la spectrométrie de masse dans le gène ZAP70. On a construit une autre souris où on avait fait de même dans le gène LAT et une autre souris où on avait fait de même dans le gène SLEEP76. En fait, c'est de la cuisine. On va passer sur la cuisine. On montre, en fait, c'est très important que le fait qu'on ait été faire ces petites modifications ne perturbe pas le développement des lymphocytes, ne perturbe pas l'activation des lymphocytes T. Et en fait, voilà, la diapositive la plus importante pour illustrer la technique. Donc, en fait, cette molécule SLEEP76, par exemple, c'est aussi la molécule native. Et en fait, on a été lui coller à la fin une petite étiquette protéique donc, qui est d'une trentaine d'aminoacides. Et en fait, cette étiquette protéique, elle est reconnue avec une très très haute affinité, donc on parle de 10-12, donc ça veut dire une affinité énorme, par une autre molécule, donc c'est une résine, la streptactine. Donc. Et en fait, ce que l'on peut faire, on a notre souris dont tous les lymphocytes T vont exprimer cette molécule avec cette petite étiquette. Ce qu'on fait, on les extrait de la souris, on les isole, on les active par l'intermédiaire d'anticorps ou par l'intermédiaire de cellules présentatrices d'antigènes pour déclencher l'activation lymphocytaire T. Et tout à l'heure, Alain vous parlait c'est des cinétiques très très rapides, donc en 300 secondes, il y a énormément d'événements qui sont passés au niveau du lymphocyte T. Donc ce qu'on a fait, on a pris ces lymphocytes T, soit pas stimulés, soit stimulés pendant 30 secondes, stimulés pendant 120 secondes, stimulés pendant 300 secondes, et immédiatement après ces temps, on les a lysés. Et on est venu avec cette résine qui possède donc cette molécule de streptactine qui va reconnaître cette petite séquence. Et ça vous permet de piéger dans le lysa des cellules votre molécule SLEEP76, mais aussi toutes les autres molécules qui sont présentes autour d'elle, qui sont venues s'agréger autour d'elle. Donc vous pouvez voir quand le lymphocyte T n'est pas stimulé, quand il est stimulé pour 30 secondes, 120 secondes, 300 secondes. Et ensuite, vous faites donc une approche par spectrométrie de masse pour identifier toutes ces protéines. Alors, c'est un gros travail qui a été fait par l'ETH, un travail de filtration des données, et en fait, vous obtenez finalement une carte de ce type-là. Donc ça, c'est la molécule SLEEP76, ça c'est LAT, ça c'est la kinase ZAP70, et en fait, on a pu voir, comme vous voyez, c'est assez complexe, que la molécule LAT, lorsqu'elle est activée par le récepteur T, lorsqu'elle est phosphorylée, elle se met à recruter un nombre assez considérable d'autres molécules, plus d'une trentaine, de la même manière pour la molécule SLEEP76, de la même manière, mais de manière beaucoup moins importante pour la kinase ZAP70. Et ce qui était assez fascinant, c'est ZAP70, ça veut dire Zeta Associated Protein de 70 kilo Dalton. En fait, et vous retrouvez ici, c'est les trois Zeta, donc c'est que ça, c'est la seule qui pêche. Donc il y a une énorme spécificité dans ça. Ça donne des informations très précises et très définitives. Ce qui est le plus fascinant, et ce qui montre vraiment qu'on est loin de tout comprendre, c'est qu'alors que ZAP70, SLEEP76 et LAT, de nouveau, sont connus depuis 20 ans, sont des molécules qui ont été pilonnées, étudiées chez l'homme, chez la souris, de manière énorme, on se retrouve que 70% des protéines que l'on a trouvé en interaction avec ces trois molécules n'avait jamais été décrit dans le contexte de ce réseau de signalisation. Donc, juste pour vous montrer l'étendue de notre méconnaissance et la masse de connaissances qu'il nous faut encore accumuler pour avancer dans la compréhension de ça. Et juste pour illustrer la beauté de la spectrométrie de masse, ça vous permet, par exemple, aussi une molécule qui est très à la mode à l'heure actuelle, qui s'appelle la molécule Temis. On ne sait pas très bien comment elle fonctionne. Donc, en fait, par spectrométrie de masse, on arrive à repérer un peptide particulier de cette protéine. Et vous voyez qu'à... Vous regardez ici, par exemple, qu'est-ce qui associe à la molécule LAT. Vous voyez qu'à 0 seconde, ce peptide n'est pas présent. Vous le voyez apparaître à 30 secondes. Il pique à 120 secondes et il baisse à 300 secondes. Donc, ça nous permet de dire que lorsqu'on a activé le récepteur des lymphocytes T, lorsqu'on a phosphorylé la molécule LAT, elle recrute dans très peu de secondes cet effecteur Temis et le perd ensuite. Donc, vous pouvez faire des cinétiques, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais ça vous donne aussi une vision non seulement qualitative de qu'est-ce qui se passe, mais ça vous donne aussi une vision quantitative qui peut être résolue dans le temps. Et rappelez-vous, de nouveau, on a juste sondé les événements qui se déroulent sous 300 secondes après l'activation, et c'est déjà assez énorme ce qui se passe. Alors après, on est confronté à la complexité du puzzle, on essaye de retrouver ces petits, donc il y a des petits qu'on retrouve, on retrouve des voies qui vont conduire à l'activation de RAS, on retrouve des petits qui vont conduire à l'activation de NFAT, au fait que les intégrines vont être beaucoup plus efficaces, on va trouver des choses qui vont jouer un rôle dans la régulation négative des signaux du TCR, mais malheureusement, il y a beaucoup de molécules dont on n'a strictement aucune idée ce qu'elles font à ce niveau-là. Donc très rapidement, je vais passer sur ces choses-là. Donc ce que je vous ai montré, c'était juste ce que l'on avait il y a à peu près une année lorsqu'on a écrit le papier. On a 30 souris qui ont chacune une étiquette sous une molécule différente. Ça, c'était le draft 6 en juillet l'année dernière. Ça se compliquait un tout petit peu. Voilà l'état des lieux. Là, c'est PAG, CBP-PAG. Regardez ce que vous rentrez dans le jeu de molécules totalement nouvelles. Ça, c'est absolument fascinant, on ne le voit pas, c'est LCK, qui est absolument fascinant parce qu'elle amène dans le jeu avec des choses qu'on ne comprend pas du tout. Et ça, c'est sur ce draft-là, c'est sur 6 souris, sur les 30 qu'on est en train d'étudier. Donc, vous vous rendez compte que le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Parce que je pense que malheureusement, c'est la réalité. Donc, comment pouvoir traiter des ensembles comme ça? Donc, bien entendu, il y a les outils de la bioinformatique qui s'appellent la biologie des systèmes qui sont très, très utiles. Mais je persiste à penser que des outils cruciaux, c'est de nouveau d'essayer de s'amuser à sortir des morceaux du puzzle et à essayer de voir comment ça peut impacter sur l'ensemble de la réorganisation de ce puzzle. Un outil qui est très intéressant également, ça donnerait une vue globale. Vous pouvez utiliser des drogues pharmacologiques, par exemple, il y a des inhibiteurs de kinase, par exemple, des inhibiteurs de LCK. Ce serait intéressant de voir, par exemple, si vous inhibez LCK, est-ce que vous allez perdre certaines de ces molécules en interaction. Donc, heureusement, il y a peut-être une manière de s'en sortir, parce que la construction de souris KIKO, c'est relativement simple, ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal d'argent, donc on parle de 30 000 euros par souris. Donc si vous l'itérez un certain nombre de fois, ça devient assez limitant. Et ce qui est absolument extraordinaire, et c'est quelque chose de juste un commentaire personnel, je suis plus de 30 ans en biologie, c'est de voir que les techniques que vous n'aurez jamais imaginé qu'elles existeraient, qui se développent. Et il y a 2 ans, il y a des nouvelles techniques qui s'appellent des techniques qui sont basées sur des nucléases, CRISPR, TALENS, qui sont des outils moléculaires qui nous permettent d'aller modifier le génome de la souris, du singe, d'espèces végétales, d'espèces animales, de manière absolument très très efficace et qui réduisent non seulement le temps qui nous permettent pour manipuler le génome, mais également le temps pour construire des souris. Donc je pense qu'on va pouvoir peut-être approcher la complexité de ce puzzle par les outils génétiques auxquels je crois beaucoup, et en les couplant avec la spectrométrie de masse, on devrait pouvoir aller de l'avant. Je voudrais juste illustrer un point qui est assez intéressant, c'est que ces souris que l'on a, en fait, elles permettent de faire non seulement d'aller sonder ce qui se passe au niveau des lymphocytes T, de comprendre l'organisation, d'essayer de comprendre l'organisation de ces voies de signalisation. Et comme vous le savez, les lymphocytes B, les cellules mastocytaires, donc, qui sont responsables de l'allergie, elles utilisent également des récepteurs qui sont bâtis sur le même modèle que le récepteur des lymphocytes T. En gros, vous avez par exemple le récepteur de haute affinité des cellules mastocytaires qui reconnaît les IgE et qui déclenche les réactions allergiques. Donc c'est exactement pareil, vous avez des molécules, une protéine tyrosine kinase, donc qui au lieu d'être ZAP70 va être SYK. Vous avez l'AT qui est présent au niveau des cellules des mastocytes. Et vous avez beaucoup de... En gros, ce qui est très intéressant, c'est que l'évolution a énormément utilisé ce type de récepteurs qu'on appelle des récepteurs ITAM, non seulement au niveau des lymphocytes T, mais elle a utilisé au niveau des lymphocytes B, au niveau des cellules mastocytaires, au niveau des plaquettes. Donc elle a réutilisé, un petit peu, c'est des variations sur un même thème, et chacune de ces cellules, finalement, joue la partition, mais de manière un tout petit peu différente. En fait, ce qui nous intéressait, c'est, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a fini l'année dernière en collaboration avec le groupe de Marc Deron et de Jérôme Garin, donc, qui travaille au CEA à Grenoble, ça a été de se dire, est-ce qu'il est possible de faire de la protéomique, non pas simplement sur des lymphocytes T primaires, mais sur des cellules mastocytaires. Et en fait, ce que l'on a fait, la même souris qui nous avait permis d'aller sonder ce qui se passait au niveau de la molécule SLEEP70, vous pouvez l'utiliser en collectant un fémur de cette souris, en extrayant la moelle osseuse, en la stimulant avec de l'IL-3, et en fait, ça permet une pousse sélective de cellules de mastocytes, donc, et on les cultive pendant très peu de temps pour essayer que la culture n'affecte pas leurs propriétés originales. Ce que l'on peut faire avec les mastocytes, ce qui est super, vous pouvez les charger leurs récepteurs de haute affinité pour les IgE avec une molécule d'IgE va être spécifique d'un ligand très particulier, le DNP, ce qui vous permet ensuite de faire une réticulation de ce récepteur, d'activer ce récepteur, et vous pouvez exactement les soumettre à la même analyse que celle qui avait été faite pour les lymphocytes T, purifier la molécule SLEEP76 par l'intermédiaire de ce petit drapeau moléculaire que l'on avait fait, et vous pouvez cette fois-ci, dans la cellule mastocytaire, déduire l'interactome, donc déduire toutes les protéines qui interagissent à un temps précis, une fois que vous avez activé le mastocyte, avec cette molécule SLEEP76. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on retrouve beaucoup d'éléments que les lymphocytes T utilisent également. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve des éléments qui sont absolument propres aux cellules mastocytaires. Et en particulier, elles utilisent, on ne sait pas pourquoi, cette molécule BCR, donc qui est la molécule qui est impliquée dans la translocation BCR-Abelson. Et donc, on rêve un petit peu de pouvoir faire aussi un genre de revisiter ces grandes voies qui sont basées sur les récepteurs ITAM dans les lymphocytes T, les lymphocytes B, les plaquettes ou les mastocytes, par la puissance de cet outil-là, et de voir un petit peu aussi comment l'évolution, chaque fois, a utilisé un même cœur de molécules, mais chaque fois a innové ou a entré de nouveaux composants qui va faire qu'un récepteur pour les IgE sur une cellule mastocytaire est probablement différent d'un récepteur pour les lymphocytes T. Ce que l'on est en train d'essayer de faire également, c'est donc, comme je vous le disais, d'essayer ce système est assez intéressant dans la mesure où, même s'il est extraordinairement compliqué, c'est la première fois que ça nous donne une vue au niveau global, donc on a une vue globale du système, même si on ne comprend pas encore tous les composants de ce réseau d'interaction. Mais c'est intéressant de voir, par exemple, si vous introduisez des perturbations pharmacologiques, de tester, par exemple, si vous développez un composé capable de bloquer une kinase ou capable de bloquer une lipase, comment le fait que vous bloquez par un composé pharmacologique un nœud de ce réseau va se traduire par des modifications particulières. Donc je vais finir sur un petit peu des perspectives. Donc, mon titre, c'était « Vers une biologie intégrative des lymphocytes T et des cellules dendritiques ». Donc, ce que l'on rêve jusqu'à maintenant, essentiellement pour des raisons matérielles, pour des raisons de quantité de cellules, donc ces lymphocytes T, pour aller traquer ce qui se passait à leur intérieur par la spectrométrie de masse, on les stimulait par l'intermédiaire d'anticorps dirigés contre le TCR pour mimer ce qui se passait lorsqu'une cellule dendritique reconnaissait un lymphocyte T. À l'heure actuelle, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est pouvoir étudier ce qui se passe dans le lymphocyte T lorsqu'il a réellement, non pas rencontré un anticorps, mais lorsqu'il a rencontré une cellule présentatrice d'antigène. Et on pourrait jouer, par exemple, sur le fait que ces cellules présentatrices d'antigène pourraient exprimer CD80 ou CD86 et voir ainsi la contrepartie de la co-stimulation amenée par la cellule présentatrice d'antigène. On a un gros problème à ce niveau-là. On est en train d'y travailler, mais on n'est pas sûr de l'avoir résolu. Ce sont des problèmes de temps de synchronisation, dans la mesure où, vous avez vu, on travaille à l'échelle de secondes. Notre premier temps de lecture est de 30 secondes. Notre problème, c'est de contrôler le temps zéro lorsque le lymphocyte T va se positionner sur la cellule dendritique. Si on est désynchronisé, ça ne sert plus à rien. Parce c'est quelque chose qu'on... On pense qu'on arriverait à faire à 2 minutes, parce qu'on est loin, mais pour le moment, on n'est pas capable de centrifuger, de liser à moins de... Donc on travaille à d'autres avec des crosslinkers et éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment le but. Et c'était pour finir. Donc voilà. Cette partie des cellules dendritiques, mais ce sera pour une autre fois. Voilà. Merci beaucoup.